à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin sur ce webcast dédié à la réforme e-reporting et invoicing qui rentrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024. Alors cette réforme, comme son nom l'indique et comme certainement vous le savez déjà, va imposer la facturation électronique et le e-reporting de toutes les transactions aux entreprises en France. Elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations de toutes les entreprises et présente des enjeux majeurs, tant en termes organisationnels et informatiques que financiers. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de décrypter avec vous au cours de l'heure qui vient. Pour atteindre cet objectif, nous vous proposons d'aborder les choses en trois temps. Alors, d'abord, un rappel des grands principes de la réforme et un focus sur les dernières actualités. Un point sur les enjeux et les risques de la mise en conformité. Et nous partagerons avec vous notre retour d'expérience sur les projets de mise en conformité pour vous aider dans la mise en œuvre de vos propres projets. Alors, vous avez un chat sur le côté, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et nous y répondrons en fin de session pendant la session de Q&A. Je me présente, je suis Virginie Ferret, je suis associée de PwC France, spécialisée en gestion des risques et conformité. Et pour animer ce webcast, j'ai le plaisir d'être accompagnée de nos experts de la réforme. Paul-Olivier Sageot, associé de PwC France également et spécialisée en risk and regulatory. Lisa Feka, associée de PwC Société d'avocats, spécialisée sur la fiscalité digitale Tax Technology. Et Isabelle Vachette, manager au sein des équipes VAT Technology de PwC Société d'avocats. Pour commencer, nous vous proposons de faire un point sur les grands principes de la réforme avec un focus sur les dernières actualités avec Isabelle.
Bonjour à tous. Donc effectivement, ce matin, nous allons revenir sur les éléments clés de cette réforme qui est annoncée en France, réforme ambitieuse, puisque en France, nous mettons en place à la fois un dispositif de e-invoicing et de e-reporting. Cette réforme annoncée par l'administration française poursuit quatre objectifs et on va le voir, ces objectifs seront le fil conducteur de chacune des obligations qui sont mises à disposition des assujettis français. D'une part, l'administration fiscale souhaite renforcer la compétitivité des entreprises à travers des délais de traitement des factures qu'elle souhaite voir réduits et améliorés au travers de ces obligations. Ensuite, évidemment, cette réforme s'inscrit dans le prolongement des mesures qui sont mises en place en France pour la prévention et la lutte contre la fraude à la TVA. Puisque, évidemment, on va venir renforcer les contrôles TVA via ce dispositif avec davantage d'informations transmises à l'administration et de ce d'autant plus en temps réel. Ensuite, l'administration, évidemment, va avoir accès au travers de ce dispositif invoicing et reporting à l'ensemble des données de facturation des assujettis français. Donc, un accès à l'information au fil de l'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, voilà, on aura une réforme qui va porter donc sur une nouvelle modalité de pilotage des actions gouvernementales. Et enfin, le dernier objectif de l'administration, et c'est un objectif à moyen terme, puisque ce n'est pas quelque chose qui interviendra dès le début de la réforme, mais l'administration souhaite être en capacité de pré-remplir les déclarations de TVA au travers des informations qui lui seront communiquées. Donc, si on revient sur le périmètre d'application de cette réforme, tout d'abord, le e-invoicing. Donc, le e-invoicing, c'est quoi? C'est le fait que demain, les assujettis français vont devoir changer les modalités d'émission de leurs factures. Tout d'abord, les assujettis vont passer sur un échange de factures sous un format structuré. Donc, c'est une réforme qui signifie la fin de l'échange de factures au format papier ou PDF entre assujettis français. Donc, ce dispositif de invoicing s'applique selon un champ d'application limité sur lequel on va revenir dans quelques instants. C'est aussi une réforme qui va se mettre en place de manière progressive puisque tous les assujettis ne seront pas soumis à l'obligation de invoicing et de e-reporting en même temps. On a un déploiement progressif qui va être initié à compter du 1er juillet 2024 en principe. Et qui s'étalonnera jusqu'au 1er janvier 2026. On a donc une évolution de la notion de facture originale, Puisque donc la facture de demain, c'est un message structuré qui va passer via les plateformes. Pour compléter donc ce dispositif de e-invoicing, on a un dispositif de e-reporting. Le dispositif de e-reporting, lui, va venir compléter le dispositif de e-invoicing. Le dispositif de invoicing, puisque donc un certain nombre d'opérations ne pourront pas faire l'objet de invoicing, et comme on va le voir ensuite lorsqu'on reviendra sur le champ d'application des obligations. Ce dispositif donc de e-reporting va porter sur certaines données. Donc les modalités de transmission seront les mêmes que le invoicing, c'est-à-dire il faudra passer via des plateformes. Et tout à l'heure également, on reviendra donc sur cette notion de plateforme partenaire via lesquelles nous allons transférer demain les flux de invoicing et de e-reporting. Un dernier mot avant de passer sur le champ d'application concernant le calendrier de mise en application de cette réforme. Donc, comme je vous l'ai dit, la première date, c'est le 1er juillet 2024 et on va avoir un déploiement progressif jusqu'en janvier 2026. Ce déploiement va se faire en fonction de la taille des entreprises. Tout d'abord, on va avoir donc une obligation qui va s'appliquer pour les grandes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés, ou alors, lorsque ce seuil de nombre de salariés ne sera pas atteint, vont cumuler un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard et un total bilan supérieur à 2 milliards d'euros. Dans la catégorie suivante, nous allons retrouver les entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des entreprises qui ont un effectif inférieur à 5 000 salariés, mais qui n'atteignent pas les seuils de la grande entreprise. Et enfin, on aura une dernière vague de déploiement pour les PME et les TPE. Donc, les PME et les TPE sont la catégorie d'entreprises qui ont un effectif inférieur à 250 salariés et qui n'excèdent pas donc un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou un total bilan de 43 millions d'euros. Ce calendrier donc de déploiement progressif va s'appliquer pour l'émission des factures, donc le invoicing à la vente finalement, et pour les dispositions, l'obligation de e-reporting, et là pour le coup à l'achat ou à la vente. Par contre, ce calendrier ne s'applique pas pour la réception du e-invoicing. En effet, en fait, à partir du moment où l'administration fiscale impose aux grandes entreprises de se conformer aux obligations e-invoicing à l'émission, l'ensemble des assujettis devra, au 1er juillet 2024, être en capacité de recevoir ces factures par les plateformes au format e-invoicing. Maintenant, si on revient donc sur le champ d'application de cette réforme. Le dispositif donc, de e-invoicing s'appuie sur 3 critères principalement. Tout d'abord, le fait que l'opération est réalisée entre 2 assujettis. C'est ce qu'on appelle les flux B2B, business to business. Ensuite, le deuxième critère est que ces 2 assujettis soient des assujettis établis en France. C'est ce qui permet de qualifier le B2B de domestique. Et ensuite, le troisième critère, c'est que l'opération tombe dans le champ d'application des règles de TVA françaises et donc des règles de facturation françaises. Donc, on va couvrir à travers le invoicing, bien évidemment, les livraisons de biens et les prestations de services plutôt domestiques réalisées entre assujettis en France. Et un point important est que le régime de TVA applicable à l'opération n'a pas d'impact sur l'obligation. Ça veut dire qu'on va retrouver en invoicing des factures qui sont échangées pour des opérations effectivement soumises à la TVA, mais également certaines opérations exonérées de TVA. Ce qu'on ne retrouvera pas dans le e-invoicing et qui vont bénéficier de mesures d'exception, ce sont notamment des opérations qui sont exonérées de TVA et bénéficiant d'une dispense de facturation en vertu des articles donc 261 à 261E du CGI. Et en premier lieu, dans ces mesures, on va retrouver les opérations du secteur banque et assurance. qui sont principalement visées, mais pas que par donc ce dispositif d'exception. Et ensuite, on va retrouver également des exceptions pour les assujettis établis à Monaco. Les opérations avec Monaco ne seront en principe pas soumises au invoicing, mais au e-reporting, on le verra juste après, sauf si l'opérateur monégasque a exercé une option, qui reste encore à définir. Ensuite, sont exclues du dispositif e-invoicing les opérations réalisées donc avec les collectivités d'outre-mer, Mayotte et Guyane. Également les opérations qui tomberaient sous le coup du secret de la défense nationale. À côté donc, de cette obligation de invoicing, nous avons l'obligation de e-reporting. E-reporting donc pour les assujettis établis en France, premièrement. Donc on va retrouver le reste des opérations réalisées par les assujettis, et notamment les opérations que l'on va qualifier de B2B international. Donc il s'agit notamment des achats à l'international et des ventes réalisées à l'international. En termes très pratiques et pour faire le lien avec les notions TVA d'opérations à l'international, cela signifie que l'on va retrouver les livraisons intracommunautaires de biens, mais également les exportations de biens hors de l'Union européenne, ainsi que les prestations de services qui sont rendues à des assujettis établis dans un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne. Côté achat, nous allons retrouver les acquisitions intracommunautaires de biens, également les achats de services réalisés auprès d'assujettis qui sont établis dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Ce qu'on ne retrouve pas côté achat, ce sont les importations de biens, puisque les importations de biens font l'objet depuis le 1er janvier 2022, d'un échange de données avec les douanes et l'administration fiscale. Ce qui fait que la TVA autoliquidée aujourd'hui est déjà, enfin les informations liées à la TVA autoliquidée sur les importations fait déjà l'objet d'un échange d'informations et l'administration fiscale ne souhaite pas recevoir en fait en double ces informations. Les dispositifs de invoicing et reporting sont complétés par deux autres obligations qui ne sont pas liées aux données de facturation directement, mais qui viennent compléter le dispositif pour atteindre les objectifs de l'administration d'améliorer la compétitivité, notamment des entreprises. En premier lieu, on va retrouver le cycle de vie des factures, puisque le cycle de vie des factures va permettre d'activer des statuts pour une meilleure transparence dans les échanges entre le client et son fournisseur ou les parties tierces qui participeront à l'opération et à la gestion de la facturation liée. On va retrouver également une autre obligation qui est liée à la transmission des données de paiement. Cette obligation, elle est intrinsèquement liée telle qu'elle est définie pour l'entrée en vigueur des obligations en lien donc avec les obligations TVA, puisqu'en France, nous avons un régime spécifique de collecte de la TVA d'après les débits. Cette collecte de la TVA d'après les débits emporte un enjeu pour l'administration fiscale du côté du client qui ne doit pas anticiper son droit à déduction. Et pour cela, l'administration met à la charge des fournisseurs, en principe, et on verra, on pourra avoir quelques exceptions, mais en principe, les fournisseurs devront communiquer les données de paiement pour les opérations pour lesquelles une TVA est collectée sur les encaissements. Donc, on vise en premier lieu les prestations de services pour lesquelles il n'y aura pas d'option exercée pour la collecte de la TVA d'après les débits et pour lesquels il n'y aura pas de dispositif d'autoliquidation. Enfin, un dernier mot sur le champ d'application concernant les assujettis non établis en France. Donc, les assujettis non établis en France auront des obligations dans le cadre de la réforme de la facturation électronique et seront concernés dans une certaine mesure par les obligations de e-reporting pour les opérations qui justifient leur immatriculation à la TVA en tant que société étrangère. On vous présente à l'écran donc le cycle de vie des factures. Parmi ce cycle de vie, je vous indiquais qu'on va pouvoir activer un certain nombre de statuts. Parmi ces statuts, il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, 4 statuts doivent être obligatoirement gérés par les assujettis lors de l'échange de factures sur les plateformes, donc dans un schéma de e-invoicing. Les 2 premiers statuts, déposés et rejet technique, sont des statuts qui vont être gérés par les plateformes et dont la gestion finalement sera transparente pour l'assujetti. Ensuite, le statut refusé par le destinataire est un statut qu'il faudra mettre en place, qui devra être mis en place par l'assujetti, donc dans ces systèmes, ou via l'aide d'un partenaire. Et enfin, le statut encaissé du côté du fournisseur devra également être organisé pour pouvoir être communiqué. Un mot important sur ces 4 statuts obligatoires du cycle de vie est que ces statuts ne sont pas la seule destination du fournisseur ou du client en fonction du statut concerné, mais ces 4 statuts seront également portés à la connaissance de l'administration. Là où les autres statuts, ceux qui sont indiqués comme recommandés ou libres, ne seront pas communiqués par l'administration, mais resteront donc dans un échange de données entre le client et le fournisseur. Néanmoins, l'administration insiste beaucoup sur ce cycle de vie, qui est en fait la pierre angulaire pour parvenir à l'objectif de renforcer la compétitivité des entreprises à travers une accélération des délais de traitement des factures et automatiquement des délais de paiement. Enfin, un dernier mot sur ces éléments clés de la réforme, sur le modèle en Y qui est retenu par l'administration fiscale française. Donc, on va le voir. En réalité, il s'agit plutôt d'un modèle en V lorsque les assujettis choisiront comme partenaire le portail public de facturation, ou un modèle en Y lorsqu'on aura dans l'écosystème de facturation de demain des PDP. Si on décrit rapidement donc ces nouveaux acteurs que je viens d'évoquer, la plateforme publique et les PDP. Donc, la plateforme publique qui est en fait donc une sorte de Chorus Pro, le Chorus Pro de demain, s'appellera le portail public de facturation et c'est un portail que l'on retrouvera souvent sous la dénomination PPF. Le deuxième acteur qui est clé dans cet écosystème de facturation, c'est les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Et Lisa reviendra sur ces PDP et leur qualification. Enfin, un dernier acteur que vous retrouverez dans notre langage, ce sont les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui participeront également au support et l'accompagnement dans la transmission des données. Et Virginie, je te repasse la parole.
Alors, merci beaucoup Isabelle. Je pense qu'il est clair que la mise en œuvre de cette réforme va être très structurante et incontournable pour toutes les entreprises. Et qu'une mise en conformité, si elle est incomplète, si elle est tardive ou si elle est complètement ratée, va entraîner des conséquences sur la facturation, mais aussi sur la trésorerie, puisque c'est la date de dépôt de la facture qui va compter, et la confiance des parties prenantes, dont la DGI. Alors, les enjeux de la mise en conformité sont multiples, ils vont être opérationnels, informatiques, fiscaux et opérationnels. Si on se penche un peu plus sur le plan opérationnel, l'enjeu principal va être de conserver un traitement fluide de la facturation tout en maintenant un niveau de contrôle interne adéquat. Ça veut dire en termes clairs que le dispositif qui va être mis en place doit traiter l'ensemble des flux entrants et sortants, qu'ils soient complexes ou non, et que oublier une typologie de flux significative dans la mise en place du dispositif entraînerait des interventions manuelles, lourdes, complexes et surtout sources d'erreurs. Le deuxième point très structurant, c'est la data. Tout le système repose sur un échange de données, vous l'avez compris, et donc vous devez disposer dans vos systèmes d'information de l'ensemble des données obligatoires de facturation pour chacun de vos clients et un niveau de qualité suffisant pour ne pas, au démarrage ou dans le run, entraîner des rejets en masse qui nécessiteraient des corrections manuelles avant le recyclage de la facture et donc un goulot d'étranglement sur vos équipes et qui mettrait en péril les paiements et la trésorerie au global. Dernier point sur les enjeux opérationnels, mais non des moindres non plus, c'est l'évolution des process. Dans ce dispositif, je pense qu'Isabelle a été claire, la facture devient automatisée avec un niveau de lecture plus complexe. Et le métier des collaborateurs aujourd'hui en charge de la facturation va devoir complètement changer et évoluer vers un métier de contrôle, et ce, dans un délai très court. Le contrôle interne, qui aujourd'hui est autour de ces process de facturation, va devoir être complètement revu et adapté, et très certainement en grosse partie automatisé, afin de maîtriser la chaîne de bout en bout. Et en dernier point sur cette partie opérationnelle, le délai de traitement des opérations va devoir être mis sous contrôle. Notamment, dans le cadre des prestations de services, il va falloir envoyer les données de paiement dans le e-reporting, et ce, tous les 10 jours. Donc, le lettrage des comptes doit être fait en temps réel et au fil de l'eau pour être en mesure de générer cette information. Si maintenant on regarde sur le plan informatique et data, plusieurs enjeux. Alors, bien sûr, la mise en place du ou des modèles avec l'intégration d'un ou plusieurs partenaires ou le raccordement au PPF, donc à Corus, au portail public français. Donc, ça veut dire un projet IT à part entière avec une très bonne compréhension métier et surtout dans un délai ultra court. Le deuxième point sur la partie sur les enjeux IT et data, c'est la gouvernance et la sécurisation des données. Donc, on a compris, les données vont devenir la clé du bon fonctionnement du dispositif. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir complètement les sécuriser, mettre en place des contrôles à la saisie ou à la modification, sécuriser l'accès aux bases de données, tracer tous les changements. Et enfin, tout ce dispositif, une fois en run, va intégrer des partenaires, que ce soit notamment des partenaires privés avec les PDP ou les opérateurs de dématérialisation. Et donc, vous allez devoir mettre un niveau de service piloté de très près avec un service level agrément, avec des KPI très précis parce que ça devient un service essentiel au fonctionnement de l'activité. Et ça veut dire également une équipe en interne en charge du pilotage du service qui va devoir avoir un niveau de réactivité très important en cas de problème ou indisponibilité. Sur le plan fiscal, deux enjeux très importants également qui nécessitent la mise en place d'une gouvernance et l'augmentation du contrôle interne. Le premier point, c'est qu'en envoyant le invoicing et les flux de e-reporting, la DGI va avoir une connaissance de l'ensemble des opérations à une maille très fine qui va permettre de mettre en place des contrôles automatisés. Notamment, par exemple, le premier point qui vient à l'esprit, c'est les mentions obligatoires. Là, aujourd'hui, ça va être un contrôle automatisé binaire. Et sachez que la sanction sur les mentions ne change pas sur cette partie. Ça reste 15 euros par mention obligatoire ou inexacte, plafonnée à un quart du montant de la facture. Il pourra aussi y avoir des contrôles également sur les taux de TVA appliqués ou des contrôles sur les délais de paiement sur les prestations de services. Tous ces contrôles seront possibles avec le détail de données qui sera envoyé. Deuxième point à avoir en tête, c'est que pendant toute une partie du run, c'est-à-dire tant que les déclarations de TVA ne seront pas pré-remplies, il va falloir établir les déclarations manuellement avec un enjeu de cohérence et d'analyse des flux qui partiront de manière automatique tous les 10 jours pour s'assurer que ce qu'on déclare est bien cohérent avec les flux qui ont été envoyés. Et donc, quand on voit tout ça, on comprend vite qu'au niveau organisationnel, c'est un sujet transverse et que l'organisation qui va être autour de ce dispositif doit être également transverse avec une coordination forte et une gestion très précise et très rapprochée des différents partenaires. Alors, compte tenu de ces enjeux, nous vous proposons dans la dernière partie de ce webcast de partager avec vous notre retour d'expérience sur les projets de mise en conformité. Aujourd'hui, un projet de mise en conformité comprend 5 phases pour être pleinement efficace. Une première phase de diagnostic de l'existant et d'analyse d'impact. Une seconde phase de choix et de conception du modèle à mettre en œuvre. Une troisième phase de conception détaillée et avec la mise en œuvre elle-même. Puis le go live et à surtout ne pas sous-estimer la période de stabilisation. Et enfin, le pilotage du dispositif pour s'assurer qu'il reste pleinement efficace et performant. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur les deux premières étapes sur lesquelles nous commençons à avoir un retour d'expérience significatif. Si on parle du diagnostic, un certain nombre d'entreprises se sont lancées aujourd'hui dans leur projet de mise en conformité en partant du principe que la réforme, et de manière plus détaillée, les spécifications qui ont été publiées par la mission facturation de la DGI, ne laissent que peu de place au choix. Donc ces entreprises se sont lancées directement sur le modèle, mais se heurtent rétrospectivement à des problématiques de flux qui ne rentrent pas dans le dispositif choisi, des flux qui n'ont pas été prévus et qu'il va falloir gérer manuellement ou intégrer en cours de route du projet, à des données qui sont de mauvaise qualité, voire inexistantes, et qui vont générer des rejets. En résumé, elle gère aujourd'hui un projet aux contours fluctuants et qui se déforme au fur et à mesure avec des stop and go et des marches arrière. Donc, si je ne vous ai pas convaincu avec cet exemple, je vous confirme que cette première phase est clé dans le déploiement du projet. Elle va permettre de dimensionner le dispositif, d'anticiper les difficultés, de prévenir les phénomènes de rejet en masse des opérations. Et elle va poser les bases d'une organisation transverse, puisque tous les métiers impliqués vont travailler dessus, avec une montée en compétences des équipes qui va être nécessaire pour les problèmes qui vont être rencontrés au départ. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de cette phase, il y a un certain nombre de points à traiter avant de se lancer. Le premier, c'est le recensement exhaustif des flux de facturation, que ce soit entrant et sortant, leur volumétrie, pour prioriser les actions et s'assurer qu'il y aura une solution pour chacune des typologies de flux. Ce recensement va nous permettre d'identifier les spécificités liées à l'organisation, les spécificités liées à l'activité, toutes les transactions qui vont avoir du mal à rentrer dans les schémas définis par la réforme et qui vont nécessiter des adaptations. Alors, ça peut être des adaptations, ça peut être des changements de process, ça peut être des changements d'organisation. C'est le cas, par exemple, pour l'autofacturation. Pour les factures, certains utilisent des factures encore pro forma pour avoir des acomptes, qui devraient être des factures d'acompte. C'est le cas pour les factures intercompagnies qui aujourd'hui ne sont pas émises mais comptabilisées en mirror posting. C'est le cas aussi, par exemple, des avoirs qui ne sont pas liés à une facture précise, par exemple les remises de fin d'année. Alors, sur la base de ce recensement, il va falloir analyser les obligations qui vont incomber à l'entreprise relatives à chacun de ces flux. Est-ce que pour une typologie de flux, ça va être du invoicing? Ou est-ce que ça va être en e-reporting pour la transaction initiale? Si c'est du e-reporting, dans quel flux de e-reporting? Quelles données et à quel moment on va envoyer les informations pour la partie cycle de vie? Est-ce qu'il y a des données de paiement à transmettre? Toutes ces questions sont importantes et ça va permettre de quantifier les besoins. Par exemple, savoir s'il faut développer tous les flux de e-reporting, les flux dédiés au B2B non domestique, les flux B2C, les données de paiement. De se poser aussi les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des arbitrages à faire? Par exemple, quand on a assez peu de prestations de services, est-ce qu'on fait une option pour les débits pour éviter d'avoir à déclarer les données de paiement et éviter ces développements? Est-ce qu'on fait des arbitrages sur les notes de frais pour éviter un dispositif trop compliqué? À partir de l'analyse de ces obligations, on va pouvoir descendre encore d'un cran et définir le détail des données qui vont devoir être transmises. Où est-ce qu'elles sont localisées dans les systèmes d'information et donc définir les systèmes d'information qui vont être à la source des données qui vont être envoyées. Identifier les données en elles-mêmes, analyser leur disponibilité et leur qualité. Et à titre d'exemple, on le voit dans toutes les missions que l'on accompagne, c'est un des points clés de réussite parce qu'on constate que 40 à 60% des données obligatoires aujourd'hui sont soit non disponibles dans les systèmes, soit erronées, soit périmées, c'est-à-dire des numéros de SIRET plus actifs, des numéros de TVA intracom plus actifs non plus. Et donc, toutes ces données-là pourront entraîner un rejet des factures ou du flux de e-reporting qui va à nouveau créer beaucoup de travail pour corriger la donnée et recycler la transaction. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, faire une revue exhaustive des référentiels tiers et transactionnels est très importante et surtout faite en amont va permettre une mise en qualité sur la durée restante avant le go-live. Au cours de cette phase, le dernier point qu'on va regarder également, c'est l'impact sur les process afin d'identifier les changements à opérer et les impacts sur le contrôle interne. Donc, vous l'avez compris, l'objectif de cette phase, c'est de prévenir toutes les surprises et les difficultés et avoir tous les points clés qui vont permettre le choix et la conception du modèle. Donc, pour cette deuxième phase, je vais laisser la parole à Paul-Olivier Sageot pour vous présenter les différents points d'attention et comment structurer le choix du modèle.
Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Virginie, on a une phase de diagnostic qui est extrêmement importante puisque en synthétisant, on va travailler notamment sur les flux, sur les process et sur les données. Une fois qu'on a réalisé ces travaux-là, on a un certain nombre de constats qui dépend d'ailleurs de la structuration des groupes. On verra qu'on peut avoir plusieurs types d'activités, plusieurs systèmes d'information, mais qui vont poser effectivement le choix et la conception du modèle. Et pour réaliser cette conception du modèle, il faut pouvoir s'attarder sur un certain nombre de questions structurantes. C'est des questions qu'on pose dans le cadre de nos travaux, puisque c'est elles qui vont définir le modèle d'organisation, en tout cas les modèles d'organisation qui sont envisageables. Donc c'est vraiment une phase de dialogue, c'est une phase de pure réflexion. Là, on essaye de répondre à ces questions justement pour arriver à définir le ou les modèles cibles. Donc, si on prend les grandes thématiques, s'il y en a d'autres, hein, on va en citer que quelques-unes aujourd'hui. Donc, effectivement, l'utilisation, le mode de transmission des factures, la gestion des référentiels tiers et la gouvernance des données, hein, comme vous l'a dit Virginie, l'émission d'une invoice va dépendre des données qui sont disponibles dans le système d'information. Donc, soit ces données sont disponibles et qualitatives et vous pouvez émettre une facture, soit ces données sont manquantes, soit leur sémantique n'est pas bonne et vous émettrez un fichier structuré qui sera rejeté par la plateforme publique de facturation. Et donc, votre fichier ne sera pas une facture et donc ne sera pas exigible. Donc, on voit que le référentiel et les données, qu'elles soient donc référentielles ou transactionnelles, sont extrêmement importantes. Derrière, ensuite, on peut avoir des sujets sur la gestion de ces flux. Je ne parle même pas du traitement des factures, mais juste savoir effectivement comment on va gérer ces flux, est-ce qu'on va les laisser décentraliser ou centraliser. Et enfin, on s'attardera un petit peu sur la partie système d'information, parce qu'elle est extrêmement importante. Je l'ai mise en dernier volontairement, tout simplement parce que c'est elle qui va structurer en grande partie les réponses aux questions précédentes. Donc, si on revient sur la plateforme de transmission des factures, est-ce que je vais, moi, me connecter directement à la PPF, finalement? Donc, c'est ce fameux schéma en V dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que, par contre, je vais utiliser un PDP? Un PDP, et puis, pour passer via d'abord par le PDP pour accéder à la PPF. Ou est-ce que, effectivement, je vais faire un mix des deux? C'est-à-dire, faire en sorte que mes flux entrants soit passent par un PDP, mes flux sortants directement par la PPF, ou l'inverse? Donc, pas mal de cas, et ça peut dépendre effectivement, cette réponse peut être différente pour chaque société qui peut composer votre groupe, ou pour chaque typologie de système. Est-ce que vais-je opérer avec un seul PDP ou plusieurs PDP? Donc, on peut avoir un PDP par entité ou par type d'activité. On a certains groupes qui regroupent un certain nombre d'activités différentes, qui elles-mêmes, chaque activité regroupant plusieurs entités. Donc, on peut se poser la question de savoir si effectivement un PDP dans ce cas-là et pas plus pertinent pour répondre aux besoins de cette activité. On peut aussi avoir des sociétés qui travaillent quasi exclusivement ou en grande partie ou qui développent un chiffre d'affaires très significatif avec un seul de leurs clients. Donc, en disant aujourd'hui, est-ce que finalement, il ne faut pas aussi que je tienne compte de mon environnement et aller questionner effectivement ce fameux client pour savoir s'il ne souhaite pas que je passe par son PDP. Donc, c'est aussi une question qu'on peut poser. Ça peut être également un PDP par système d'information, puisque les systèmes d'information, comme je vous l'ai dit, sont extrêmement structurants, et le PDP sera choisi en fonction des éléments que vous allez souhaiter lui confier. Donc, ils vont dépendre aussi des capacités de vos systèmes. Donc, avoir une logique par système d'information en disant j'ai X sociétés sur tel ERP, X sociétés sur des formats plutôt best of breed, et puis finalement, j'ai deux sociétés qui ont deux ERP totalement différents. Vais-je choisir un PDP pour chaque catégorie ou un PDP pour le global, pour l'ensemble du groupe? Si on passe au référentiel tiers et aux gouvernances de la donnée, là, on touche un point que je vous dis particulièrement important. Donc, est-ce qu'on reste en état? C'est-à-dire, vais-je finalement avoir un référentiel tiers par entité? Donc, ce qui n'est pas le plus simple, hein, puisque aujourd'hui, comme vous l'a dit Virginie, on a une montée en qualité nécessaire des référentiels tiers. Le point, c'est pas le point le plus compliqué en fait, hein, cette montée en qualité, c'est surtout la matière dans le temps, faire en sorte que cette photo ne jaunisse pas trop vite. Et donc effectivement, le référentiel tiers par entité, c'est pas la solution la plus pérenne, ou en tout cas la plus facile en mode pérenne. Donc la question peut se poser en disant finalement, est-ce que je crée pas un référentiel tiers par typologie de système d'information, typologie de RP, outil de dématérialisation? Ou par activité d'ailleurs, hein, puisque derrière elles peuvent regrouper elles-mêmes un certain nombre de clients et de fournisseurs communs, ou alors à la fin, création d'un référentiel tiers-maître pour l'ensemble du groupe à interfacer avec l'ensemble des systèmes d'information. Certains groupes ont choisi cette solution, en tout cas pour un certain nombre de données tiers, afin effectivement de permettre une mise en qualité plus facile, mais également de faciliter un mode pérenne, sachant qu'effectivement, ces données maîtres viendront ensuite alimenter les référentiels de chaque entité. Sur la gouvernance des données référentielles, Est-ce que là, c'est pareil, même système, est-ce qu'on va laisser effectivement cette gouvernance à chaque entité? Est-ce qu'on va organiser une gouvernance d'un référentiel tiers par système d'information avec une équipe dédiée, hein, ou non d'ailleurs, centralisée ou non? Est-ce qu'on va plutôt opter pour une gouvernance d'un référentiel tiers maître groupe avec une équipe centralisée et dédiée, donc en charge de la qualité de ces données? Et enfin, est-ce que pourquoi pas ne pas externaliser effectivement cette gouvernance de ces référentiels à un prestataire qui pourra m'assurer par convention la disponibilité de la donnée et la qualité de ces données? Donc, vous voyez effectivement, choix multiples. Enfin, et c'est pas le dernier point sur la gestion de ces flux. Aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de savoir si je prends notamment un PDP ou un PDP par groupe d'activité ou par système d'information, est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas créer des hubs de réception et d'émission de ces factures? Est-ce que je n'ai pas, et du coup, peut-être pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas créer un hub, effectivement, de réception d'émission, mais également de traitement de ces factures? Donc, quelques questions qui peuvent se poser à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une activité ou à l'échelle d'un système d'information. Si je prends le dernier point et qui n'est pas le plus simple, c'est l'impact de la trajectoire des systèmes d'information eu égard à la réforme Invoicing Reporting et à ses délais de mise en place. On s'aperçoit, et il n'est pas rare, vraiment il n'est pas rare, que dans un groupe, on n'ait pas un ou plusieurs projets assez significatifs impactant la trajectoire du ou des systèmes d'information, que ce soit une montée de version, que ce soit un changement de ERP, que ce soit une feuille de route de convergence vers une seule solution, vers un seul système d'information. Donc ce point-là, évidemment, est à prendre en considération, non seulement dans son timing, il n'est pas rare que cette réforme et des impacts sur cette trajectoire des systèmes d'information et que cette trajectoire ait des impacts également sur la réforme, hein, ça va dans les deux sens, mais également on doit faire face aussi de plus en plus à une certaine dette technologique, c'est-à-dire que on s'aperçoit au sein de groupes utilisant plusieurs systèmes d'information que tous ne sont pas à jour, on n'est pas en dernière release, c'est même assez rare finalement qu'on soit en dernière release, donc on va mêler des systèmes d'information qui sont totalement à jour et qui vont pouvoir bénéficier effectivement des add-ons éditeurs, à des versions un peu plus anciennes sur lesquelles on peut avoir une version dégradée de la mise à jour qui peut être proposée d'ailleurs par l'éditeur ou par l'intégrateur, et enfin à des systèmes d'information qui ne sont plus maintenus par l'éditeur et qui ne pourront pas bénéficier de ces add-ons ou de ces plugins et sur lesquels il faudra envisager soit un développement spécifique en interne, soit effectivement travailler avec des acteurs de type OD. Ce que l'ISRA va développer tout à l'heure. Donc, si on passe rapidement, parce que je vois que le temps passe très, très rapidement, au slide suivant, pour illustrer effectivement le choix de ces modèles-là. Donc, vous voyez, on a essayé de structurer ce questionnement. Si on passe en démarrant à gauche par les schémas de facturation, donc, scénario 1, chaque entité gère son projet de facturation électronique, donc on pourra avoir une PDP par entité. Un scénario 2 qui est le projet de facturation électronique est structuré par système d'information. Et en fait, il y a le dernier scénario qui est le projet de facturation donc électronique structuré au niveau groupe avec une PDP groupe, ce qui peut décliner en plusieurs scénarios pour la structuration et la gouvernance des référentiels. Une gouvernance qui reste décentralisée et un référentiel maître qui alimente les référentiels historiques. C'est le schéma de droite. Un scénario B qui est une gouvernance centralisée auprès d'une structure dédiée qui va prendre en charge le référentiel historique existant, donc la montée en qualité et ensuite la gestion qualitative en mode pérenne. Et enfin, un scénario C qui va être une gouvernance centralisée avec un référentiel maître alimentant les référentiels des autres systèmes. Tout ça déclinant vers la troisième question qui est le hub de facturation. Donc, chaque entité gérant soit ses flux de facturation, soit un hub de gestion de la facturation entrante ou sortante, qui peut être également une solution groupe qui va devoir décliner. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre d'aboutir au fur et à mesure des réponses que vous allez apporter à ces questions structurantes à plusieurs modèles opérationnels. Ces modèles opérationnels, évidemment, il faut pouvoir les comparer, comparer leurs forces et leurs faiblesses, la hauteur de la marche par rapport à l'existant, mais également la complexité d'implémentation et les efforts qui vont devoir générer en mode pérenne. Un point de réflexion, la facilité pas toujours, la facilité d'implémentation n'est pas toujours la bonne solution. En règle générale, ce que vous gagnez en implémentation, vous le perdez en qualité et on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de groupes partent sur des schémas de run qui peuvent être assez complexes, qui seront assez gourmands et assez challenging à maintenir dans le temps. Donc, ces éléments-là sont évidemment extrêmement importants et je ne peux pas revenir sans vous parler à nouveau de l'importance de vos systèmes d'information et notamment de leur versionning, qui est un élément structurant, et notamment ce qui me fait une parfaite d'ailleurs transition pour passer la parole à Lisa, qui va donc développer ce sujet-là, notamment PDPOD.
Merci beaucoup, Paul-Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un des jalons importants dans la mise en œuvre de la réforme est la sélection d'un ou de plusieurs partenaires en fonction, comme vous l'avez vu, des choix d'architecture technique qui seront pris, de l'écosystème informatique en place et des organisations métiers internes. Alors maintenant, nous sommes à moins de 12 mois du go-live de la réforme et à 6 mois du lancement de la phase pilote. Le choix du PDP ou de l'opérateur de DMAT, OD, est le sujet du moment qui occupe un grand nombre de nos clients. En effet, vous verrez que les temporalités informatiques et réglementaires ont des échelles de temps différentes, car il faut anticiper, comme le disait Paul-Olivier, un temps incompressible dans la mise en œuvre de votre solution IT avec le ou les prestataires que vous allez sélectionner et qui, en pratique, peut varier parfois de 5 à 9 mois en fonction des choix opérationnels de raccordement, du nombre d'applications à raccorder, à connecter, des opérateurs aussi qui seront impliqués entre les OD, les intégrateurs, les PDP et autres éditeurs de solutions. Alors, comment faire un choix éclairé parmi les différentes offres commerciales du marché? Vers qui s'orienter? Pour quelle offre de service? C'est ce que nous allons essayer de décrypter ensemble en essayant d'aller à l'essentiel. Peut-être juste avant d'aborder les principaux critères d'aide au choix à la sélection du partenaire, très rapidement, un rappel sur les rôles et responsabilités des différents acteurs et surtout leur zone de démarcation. Le PDP, ça a été rappelé, c'est un acteur clé qui va jouer un rôle essentiel dans le dispositif, puisque ces plateformes, les PDP, seront les seules habilités à acheminer les factures électroniques, donc du fournisseur vers la plateforme du client et à communiquer pour le compte de leurs clients les données attendues au PPF. Mais au-delà de son socle de services réglementaires autour des obligations de e-invoicing et de e-reporting, la PDP devra respecter d'autres obligations et des obligations relativement lourdes en termes de sécurité, en termes d'hébergement des données, en termes d'interopérabilité. Ce sont des exigences en fait dont le respect sera vérifié au travers d'un audit de conformité qui devra intervenir au plus tard le 30 juin 2025. Ça veut dire un an après l'entrée en vigueur de la réforme, donc un audit de conformité qui peut potentiellement venir invalider rétrospectivement une immatriculation qui aura été délivrée par l'administration fiscale un an plus tôt. On a pas mal de questions là-dessus sur le chat et on y répondra juste après. Donc, il y a vraiment un enjeu de bien évaluer en amont de la contractualisation avec vos PDP, sa maturité et surtout la robustesse de sa solution. Mais sachez aussi qu'au-delà des services réglementaires, je dirais PDP classiques, la PDP peut aussi vous proposer d'autres services à plus forte valeur ajoutée qui vont situer plus en amont ou en aval de la transmission des factures. Typiquement, ça peut être un module de référencement client, comme l'a indiqué Paul-Olivier, qui serait en lien avec l'annuaire central du PPF et qui viendrait valider une cohérence entre effectivement les données de routage et les données de vos fiches clients pour vos nouveaux partenaires. Un certain nombre de PDP peuvent proposer ce type de module. Un module aussi de détermination de la TVA, un espèce de tax engine qui va venir en amont sécuriser le traitement de TVA de vos données de facturation. Des fonctionnalités autour de la visualisation de la CA3 en avance de phase, comme le fera le PPF à compter de 2027 dans une approche de reconstituer et de pré-remplir la CA3 et aussi d'autres fonctionnalités autour de la gestion des workflows de validation embarqués sur les plateformes et autres modules de rapprochement lettrage. Si on compare maintenant la palette de services PDP versus OD, on se rend compte que la principale différence, elle tient au fait que l'OD, il n'existe pas aux yeux de l'administration fiscale, il n'est pas autorisé à émettre ou recevoir directement les factures. Il n'est pas immatriculé. C'est un espèce de tiers facilitateur, un intermédiaire qui va se situer donc en amont ou en aval du PPF ou d'une PDP et qui peut aider les entreprises à se mettre en conformité en fonction de l'approche retenue, soit une approche de raccordement direct au PPF, soit en sous-traitance d'une PDP en marque blanche. Si on veut synthétiser, les différences en termes de couverture fonctionnelle et d'obligation et d'exigence entre une PDP et un opérateur de DMAT. Pour synthétiser, on peut dire que l'OD n'a pas les contraintes d'une PDP parce que pas d'immatriculation obligatoire, pas d'audit de conformité imposé, pas d'obligation Sectum Cloud, mais peut en revanche réaliser toute une palette de services qu'un PDP peut réaliser, mais avec certaines limitations. Néanmoins, à titre d'exemple, un opérateur de DMAT, un OD, sera limité dans le format d'échange avec le PPF. Il ne sera pas possible, par exemple, de pousser de l'EDI, un message facture en EDIFACT, vers le PPF. Il faudra recourir à un schéma de PDP en amont et en aval, c'est-à-dire en amont au niveau de la plateforme d'émission du fournisseur, mais également en aval au niveau de la plateforme en réception du client. Une OD ne pourra pas mettre à jour l'annuaire central pour le compte de ses clients destinataires. Une OD ne pourra pas consulter l'annuaire central pour connaître la PDP du destinataire, la PDP donc en réception côté client. C'est pour ces raisons qu'on voit de plus en plus apparaître sur le marché de nouveaux modèles opérationnels qui vont se baser sur des partenariats OD plus PDP en marque blanche pour venir compléter ces limitations. Comme vous le voyez, les options sont relativement multiples et souvent hybrides, même si en grande majorité, le constat qu'on peut faire, c'est que nos clients font, dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible et des contingences au niveau des SI, de centraliser une large partie de leur flux de facturation au sein d'une PDP ou d'un OD plus PDP en marque blanche unique, afin de limiter notamment les efforts de développement IT, de limiter les coûts d'implémentation et puis surtout pour centraliser la gestion opérationnelle des flux. Un nombre de plus en plus important d'opérateurs se positionne sur le marché, comme vous le constatez tous, avec l'ambition d'être PDP demain, mais avec des graduations qui sont relativement nettes en termes de maturité, en termes de couverture fonctionnelle. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le marché des futurs PDP se structure principalement autour d'éditeurs de grande taille avec une empreinte internationale. On a certains éditeurs plutôt de taille intermédiaire, là aussi avec une empreinte internationale et nationale. Et enfin, on a c'est les moins nombreux, les éditeurs de niche. Alors, pour choisir sa PDP, parmi les critères d'aide à la décision, qu'est-ce qu'on retrouve ? Généralement, on va retrouver des critères autour du positionnement de marché du candidat, de son secteur d'activité. On a des PDP qui sont plus positionnés pour gérer le secteur financier, d'autres PDP qui vont avoir un footprint plus secteur médical. Donc, effectivement, le positionnement de marché du candidat, son empreinte nationale ou internationale, ce sont des éléments qui sont prégnants pour les entreprises, notamment certaines qui souhaitent anticiper d'ores et déjà les mesures VIDA dans leur stratégie de mise en conformité. Après, sur les critères d'aide au choix, on va retrouver sur le périmètre de couverture fonctionnelle des différences nettes, là aussi, entre les candidats qui vont se situer au niveau des modalités de gestion des modes d'acquisition de factures. On va avoir effectivement des acteurs qui vont proposer des solutions omnicanales versus des candidats qui vont être limités dans les modes d'acquisition des factures en excluant par exemple la gestion des formats non structurés de type PDF, mail, papier. Donc il faut bien regarder le périmètre de couverture fonctionnelle pour faire votre choix par rapport aussi à vos formats d'échange natifs au niveau de votre environnement système. L'éventail des services autour des contrôles également hein, peut être différenciant d'une PDP à l'autre. Hein. Ça peut aller du respect à des contrôles réglementaires basiques. Hein. On vérifie effectivement que le format sémantique est bien complet, que les règles de gestion sont bien respectées, à des contrôles beaucoup plus poussés en matière de TVA, qui peuvent embarquer aussi des contrôles sur la territorialité de la TVA également, hein, des contrôles avec une projection sur la CA3 de demain, et aussi des contrôles métiers poussés. Donc, il faut faire aussi votre choix sur la base de ces critères-là, hein, des contrôles embarqués et proposés par la solution, et aller venir challenger le niveau de granularité de ces contrôles-là. Il y a également des variantes dans l'offre de service du e-reporting. Ça, c'est très important. Hein. On est quand même maintenant, on arrive à avoir des zones de démarcation relativement bien prononcées, hein, avec des PDP qui sont sur la gestion du e-reporting, soit sur une approche en mode passe-plat uniquement, soit des candidats qui vont proposer, qui vont faire effectivement une proposition de valeur beaucoup plus poussée en allant jusqu'à proposer la constitution du e-reporting proprement dite, sous réserve bien sûr que l'ensemble des factures transitent. Quand je dis factures, c'est factures B2B internationales et factures B2C transitent par la plateforme. Nous avons également des différences hein, sur l'étendue des services à valeur ajoutée hein, qui sont proposées au niveau des processus métiers. Hein. Sachez que les PDP peuvent aussi vous proposer en tout cas des fonctionnalités autour de vos processus métiers order to cash, purchase to pay. Hein. Et ce que l'on voit en pratique se situe au niveau des fonctionnalités typiquement de référencement client hein, qui sont en lien avec la gestion de l'annuaire, des fonctionnalités en matière de lettrage et de gestion du statut encaissé, des fonctionnalités qui vont aller proposer des workflows automatiques embarqués dans les plateformes. Donc, on est sur l'ensemble de ces critères hein, qui permettent effectivement de faire un choix éclairé, puisque, en tout cas, le périmètre fonctionnel des PDP est relativement riche.
Alors, merci Paul, merci Lisa. Donc, nous espérons que ce partage d'expérience a permis de vous donner d'autres perspectives dans la gestion de votre mise en conformité. Avant de passer aux questions-réponses, on voulait partager avec vous un dernier point d'actualité. La mission facturation a annoncé une publication d'une nouvelle version des spécifications d'ici fin juillet, donc restez vigilants. Cette nouvelle version devra apporter des précisions sur la gestion du cycle de vie et l'enchaînement des différents statuts, les impacts du statut refusé et le traitement qui va devoir s'en suivre, et sur les opérations avec les DOMCOM. Donc, un nouvel épisode dans la série. Un peu de lecture estivale, mais il y a fort à parier que de toute façon, ce ne sera pas l'épisode final. Alors maintenant, place aux questions. Donc, on a eu de nombreuses questions dans le chat. Alors, peut-être une première question qui va être pour Isabelle. Elle concerne le calendrier de la réforme pour les clients en auto-facturation. Alors, Isabelle, la question est quel est le seuil à retenir pour déterminer la date de passage à la facturation électronique dans ce cas ? Est-ce que ce sont ceux du mandant ou ceux du mandataire ?
Alors, en cas d'autofacturation, c'est bien le calendrier du fournisseur qui doit être retenu. C'est-à-dire, quand bien même le client applique l'autofacturation, c'est le calendrier du fournisseur, car c'est le fournisseur qui reste responsable vis-à-vis de la facturation.
Ok, merci Isabelle. Et bien, peut-être une deuxième question pour toi également. Qu'en est-il des notes de frais dans la réforme ?
Les notes de frais sont donc pleinement concernées par la réforme. D'ailleurs, on le voit au travers des spécifications externes pour lesquelles on a des cas d'usage qui font référence directement aux notes de frais.
Ok. Alors, une troisième question sur l'envoi des données de paiement et le statut payé. Donc, la question est qui doit envoyer les données de paiement ou le statut payé, le client ou le fournisseur ? Ça, je vais peut-être m'en occuper. Du coup, les données de paiement sont envoyées pour les prestations de services, que ce soit facture ou acompte, et très certainement à venir sur les acomptes de vente de biens. Donc, en règle générale, c'est le vendeur qui va être redevable de cette information, donc le fournisseur, sauf ce cas spécifique de remboursement à avoir, et il y aura des précisions normalement dans les prochaines spécifications. question suivante, alors pour Paul-Olivier, je pense, c'est comment gère-t-on une migration qui intervient sur le chemin de la mise en conformité ?
Alors, une migration, ça dépend quand est-ce qu'elle a lieu. Soit effectivement, vous envisagez une migration parce qu'il y a un changement de système. Et là, on peut se poser la question en disant aujourd'hui, est-ce que je fais, est-ce que j'audite la qualité de mes données avant cette migration ? Est-ce que je le fais après ? Alors, moi, je vous conseille sincèrement, on a deux cas de figure, mais sincèrement, si vous envisagez de changer de système, alors que ce soit effectivement avant votre passage au invoicing ou juste après, je vous conseille sincèrement effectivement de commencer l'audit de vos données transactionnelles et référentielles, que ce soit effectivement leur disponibilité, leur qualité, leur sémantique, afin de permettre un enrichissement de ces données directement dans vos systèmes ou à l'extérieur du système, hein, peu importe, mais en tout cas de pouvoir les mettre en place de telle façon à ce que vous ayez à faire qu'une seule migration. Donc migration, puisque une migration c'est l'extraction des données de votre ancien système, c'est l'apurement, le nettoyage, l'enrichissement et ensuite l'upload dans le nouveau. Donc autant pas le faire deux fois, autant effectivement pouvoir extraire ces données de votre entre guillemets système d'information historique, pouvoir y ajouter la mise en qualité nécessaire invoicing et reporting et d'uploader tout ça effectivement dans le nouveau système, soit effectivement en deux temps j'extrais de mon ancien système, j'additionne ce que j'ai pu collecter, la mise en qualité que j'ai pu faire sur un fichier Excel ou ailleurs, sur d'autres fichiers, et je réupload le tout, soit directement parce que j'ai fait cette mise en qualité dans mon ancien système en prévoyant un minimum ensuite de travaux pour le uploader dans le nouveau. Voilà.
Merci, Paul. Alors, question suivante, à mon avis, plutôt pour Lisa. Quel lien peut-on faire avec le projet VIDA ?
Oui, comme un certain nombre d'entre vous le sait pertinemment, hein, le 8 décembre dernier, un projet de directive VIDA hein, a été effectivement proposé par la Commission européenne, hein, dont l'objectif, en tout cas l'ambition, c'était de poser les bases d'un système de facturation électronique harmonisé, plus interopérable et plus standardisé. Donc, à date, hein, on est sur une proposition de mesure. Attention, hein, il s'agit d'un projet. La Commission européenne est partie du constat qu'il y avait un certain nombre de divergences au niveau des modèles hein, à l'échelle européenne. On était sur des modèles qui coexistaient, qui étaient très différents les uns des autres. Hein. On avait des modèles de clearance tels que celui qui est envisagé par la Pologne hein, et qui va basculer donc en juillet 24, ou l'Italie hein, par exemple, hein, qui cohabitaient aujourd'hui avec des modèles post-audit ou des modèles centralisés. Versus des modèles hybrides comme le nôtre, hein, qui intègrent des plateformes privées. Alors, si on essaye de faire un comparatif avec le dispositif français, on peut dire que le projet de directive, dans sa configuration actuelle, s'inscrirait hein, dans la même logique, tant sur un plan technique, hein, puisqu'on reste sur un même socle normatif, hein, au regard du contenu des données, au regard des formats d'échange, hein, puisqu'on est sur l'application d'une norme européenne EN16931, qui est effectivement une norme qui promeut les formats d'échange de données structurées. On serait sur l'utilisation d'une sémantique qui est la même que celle qui est imposée en France au niveau effectivement des obligations de e-invoicing, d'un point de vue organisationnel aussi, hein, avec l'utilisation de plateformes. Et ce, contrairement à d'autres modèles comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, voire même la Pologne, hein, où il y a des adaptations d'envergure très importantes hein, qui sont anticipées. Donc, on peut se rassurer en disant que la marche, effectivement, est relativement haute, hein, compte tenu des enjeux hein, du projet de mise en conformité de la facturation électronique français. Mais en tout cas, ces efforts de développement permettront en tout cas de pouvoir se conformer à une échéance future aux obligations VIDA. Juste un point d'impact majeur hein, au niveau du projet de directive VIDA, hein, qui est l'instauration de l'obligation de transmission d'un e-reporting pour les flux intracommunautaires. Je rappelle juste aujourd'hui que le modèle français n'impose pas une dématérialisation des factures intracommunautaires, hein, puisque notre e-reporting aujourd'hui, il est défini, tel qu'il est défini, pardonnez-moi, il est complètement décorrélé du processus de facturation, hein, et il n'impose pas une dématérialisation des factures intracommunautaires. Donc, points d'impact à suivre. Donc.
Merci beaucoup, Lisa. Alors, on arrive au terme de cette webcast. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On reste à votre disposition pour y répondre et si vous avez forcément des besoins d'accompagnement. On refera un point d'actualité à l'automne. On vous remercie d'avance si vous pouvez prendre une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction, trois petites questions à la fin. Et on vous remercie beaucoup pour votre participation. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt.